Dans le cadre des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole, SOS Violence Conjugale 42 et le CIDFF de la Loire, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, organisaient une journée interprofessionnelle sous le titre « Femmes et précarité, faire face aux effets de la pandémie ». À ce titre, Eva Potier, chef de projet dans le cadre de l'Observatoire du SIAO, le service intégré d'accueil et d'orientation, plus connu sous le nom de 115, présentait les premiers résultats d'une étude sur les solutions d'hébergement d'urgence proposées aux femmes en situation de précarité. Une démonstration qui pose la question d'égalité des genres dans la précarité, encore plus révélée dans cette période de Covid et malheureusement un lien évident avec les violences conjugales faites aux femmes. Radio Ondaine vous propose de découvrir cette présentation d'Eva Potier du SIAO et d'entendre les échanges qui y ont suivi avec les participants et Pauline Chassin, directrice de SOS Violence Conjugale 42.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais présenter un petit peu l'institution de laquelle je parle, qui est le SIAO, donc Service Intégré d'Accueil et d'Orientation. Je vais revenir un petit peu plus précisément sur les missions, puisqu'il me semble aussi qu'il y a un certain nombre de professionnels qui ne connaissent pas très bien le fonctionnement du 115 du SIAO. Donc le SIAO, c'est un service départemental, donc on est bien censé couvrir l'intégralité du département ligérien. Et la particularité de la Loire, c'est que ce SIAO est porté par un groupement de coopération sociale qui regroupe 15 associations du territoire, donc des associations de l'hébergement-logement, donc dont SOS Violence Conjugale qui est présent ici, mais aussi la CARS. Voilà, je ne vais pas vous énumérer la liste, mais vous l'avez sur le diaporama. Donc concrètement, le SIAO, quelles sont ses missions ? Donc on a trois services en fait qui regroupent trois types de missions. Le premier service, c'est le 115. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le SIAO Insertion. Et enfin, le service que je représente, qui est l'Observatoire. Donc le 115, quelles sont ses missions ? C'est peut-être le service le plus connu à l'extérieur, on va dire. C'est le numéro vert pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri. Donc comme tout numéro vert, c'est un numéro qui est gratuit, qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La mission principale du 115, c'est de centraliser la demande d'hébergement d'urgence et d'orienter les personnes en demande vers les places disponibles, donc que ce soit dans des centres d'hébergement d'urgence ou à l'hôtel. Je reviendrai un petit peu sur la façon dont ça fonctionne aujourd'hui. Il y a aussi également une mission de gestion d'une partie de la demande en colis alimentaire et d'orientation des personnes sur les bons dispositifs. Mais au-delà de ça, le 115, c'est vraiment une mission d'écoute particulière. Les écoutants et écoutantes sociaux et sociales sont habilités à transmettre un certain nombre d'informations aux personnes qui sont sans abri pour les diriger vers les bons endroits. Et aussi, il y a un travail d'écoute voilà, qui est un petit peu difficile à mesurer, à quantifier, mais qui est très important. Et donc, j'en profite voilà, pour dire que dans la salle, j'ai deux collègues écoutantes sociales et une collègue travailleuse sociale. Et que pendant les échanges, peut-être que je leur laisserai la parole pour parler concrètement de leur travail au-delà de la présentation que je vais faire. Et enfin, la dernière mission du 115, et pas des moindres, qui est une mission assez particulière sur la Loire, c'est la mise en sécurité automatique des personnes victimes de violences. Cette mise en sécurité, elle se fait de façon automatique et illimitée, c'est-à-dire que si on est une personne victime de violences qui a besoin de quitter son domicile ou qui est sans domicile, en sollicitant le 115, on bénéficie d'une mise en sécurité automatique. Je reviendrai plus précisément sur la présentation de ce dispositif, puisque j'ai fait un petit focus. Et ce sera l'occasion de présenter notre partenariat entre donc, le SIAO et l'association SOS Violence Conjugale 42. Quelques chiffres pour situer l'activité, pour préciser un petit peu les choses. Au 115, les écoutants et écoutantes reçoivent environ 150 appels par jour, en moyenne, donc ce qui est quand même considérable. Il faut savoir qu'à différents moments de la journée, ils sont entre 1 et 3 écoutants pour gérer ce flux d'appels quotidien. Au niveau de la demande que l'on reçoit, j'ai pris le choix de prendre un mois un peu de façon arbitraire sur le mois de janvier 2021. On avait 556 personnes distinctes, soit 413 ménages différents qui nous ont sollicité au moins une fois pour une demande d'hébergement d'urgence. Voilà pour vous qualifier un petit peu le niveau de la demande et pour avoir un aperçu de l'offre en regard qu'on peut proposer. On dispose de 395 places d'hébergement d'urgence, dont une partie qui sont spécifiques pour les femmes et une partie qui sont spécifiques pour les personnes victimes de violences. Au-delà de ces places d'hébergement d'urgence, on accueille les personnes à l'hôtel. Aujourd'hui, il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, ça va sûrement changer avec les instructions ministérielles en cours, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de quota de place à l'hôtel. Donc c'est pour ça que je parle en nombre de personnes et pas en nombre de places à l'hôtel. Aujourd'hui, on est à 536 personnes à l'hôtel. C'est peut-être un petit peu long, mais je veux vraiment revenir sur la situation du 115 aujourd'hui, puisqu'on est dans une situation assez particulière à la rentrée 2021, qui est une situation de saturation quasi complète de nos dispositifs. Et pour la comprendre, il faut revenir en mars 2020, donc avec le premier confinement. C'est un petit peu la panique générale, mais l'idée, c'est d'héberger toutes les personnes qui sont à la rue pour lutter contre la crise sanitaire. Et donc, il y a une politique de mise à l'abri assez générale de la quasi-totalité des personnes qui sollicitent le 115. Pendant tous les confinements, ça a été cette politique-là qui a été appliquée, c'est-à-dire qu'il fallait mettre à l'abri toutes les personnes qui nous sollicitaient. Ce qui a fait que on a un quota de places d'hébergement d'urgence qui est fixe. Donc pour pouvoir mettre à l'abri plus de personnes, on a sollicité l'hôtel. Avant la crise sanitaire, il y avait environ 80 personnes qui étaient hébergées à l'hôtel. Aujourd'hui, donc, on est à plus de 500. Voilà, on est dans une situation de saturation qui est vraiment très particulière, qui fait qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes nouvelles qui rentrent sur nos places. En fait, c'est une personne sort, une personne rentre, et c'est pas possible autrement. Voilà, avec encore une fois la petite exception des personnes victimes de violences sur laquelle je reviendrai. La conséquence de cette saturation-là, c'est vraiment une hausse des demandes non pourvues, qui est assez importante. Au mois de janvier 2021, on était à 26% des demandes non pourvues, ce qui est quand même relativement acceptable. En août 2021, on était à plus de 60% de demandes non pourvues. Voilà, donc c'est ça la réalité de la saturation aujourd'hui. Donc la deuxième mission. Donc le deuxième service, c'est le service du SIAO, ce qu'on appelle le service SIAO insertion, le service social du SIAO. Donc globalement, la mission de base, c'est la même, c'est la centralisation de demandes d'hébergement et l'orientation vers un dispositif adapté. La différence, c'est que on n'oriente pas sur les mêmes dispositifs, ce n'est pas de l'urgence, c'est ce qu'on appelle de l'insertion. Donc hébergement d'insertion, ça va être le CHRS en majorité, avec toutes les déclinaisons, collectifs, diffus. Et vers les solutions de logement adapté. Donc le logement adapté, ça va être l'intermédiation locative, les pensions de famille, les résidences sociales. Voilà, encore une fois sur ce point, si vous voulez plus de précisions sur les dispositifs, je laisserai la parole à ma collègue Laetitia du service social, qui est beaucoup plus compétente que moi. La différence aussi avec le 115, c'est que du coup l'orientation, elle se fait après un diagnostic social. Si sur le 115, la réponse, elle est immédiate, puisque c'est de l'urgence, sur l'insertion, il y a vraiment le travail de nos travailleurs sociaux pour proposer l'orientation la plus adaptée à la situation. La mission également des travailleurs sociaux du service social, c'est d'assurer une référence de parcours sur les ménages qui nous sollicitent jusqu'à leur stabilisation au regard du logement ou de l'hébergement. Pour situer l'activité, également quelques chiffres, on reçoit environ 1000 demandes par an. Voilà, donc on n'est pas sur les mêmes volumes que le 115. Voilà, c'est vraiment deux temporalités différentes. Et pour preuve, on attend aujourd'hui environ 6 mois entre le moment où le SIAO insertion va recevoir la demande et où la personne va effectivement rentrer en structure. Alors cette moyenne de 6 mois, elle est vraiment très variable en fonction des dispositifs. Il y a des dispositifs qui seront beaucoup plus saturés que d'autres. On va attendre beaucoup plus longtemps pour rentrer sur une place de CHRS diffus ou sur une place de pension de famille que sur une place d'intermédiation locative, par exemple. Donc voilà pour le deuxième service. Et enfin, le dernier service, celui que je représente, qui est le service de l'Observatoire, qui est un service qui est relativement nouveau. Puisque moi je suis arrivée en décembre 2020 et que j'ai une collègue qui nous a rejoint en stage en février et puis là maintenant qui travaille avec nous. Donc les missions de l'Observatoire, il y a une mission toute particulière qui est celle de l'observation sociale de l'activité du 115 et du SIAO. Cette mission-là, elle est inscrite dans le cadre réglementaire des SIAO, c'est une obligation légale de fournir cette observation-là. Mais on a une ambition particulière sur la Loire, c'est de développer l'observation au-delà de ce cadre réglementaire. D'analyser les statistiques qu'on peut produire au regard de données qualitatives que l'on va pouvoir aller récupérer auprès des membres de notre groupement en particulier. On a une mission aussi d'aller au-delà de notre cadre réglementaire, puisqu'on aimerait développer une observation qui soit vraiment départementale. Puisqu'en effet, aujourd'hui, si on s'intéresse seulement à l'observation de notre activité, c'est-à-dire l'activité du 115 et du SIAO, on sera sur une observation qui est malheureusement focalisée à Saint-Étienne et à Rouen. Donc tout l'enjeu d'aller observer sur l'ensemble du territoire et les territoires qui sont hors Saint-Étienne et Rouen, c'est justement d'aller voir comment la demande s'exprime, pourquoi cette demande ne nous parvient pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette demande nous parvienne. Voilà, et un petit point de méthodologie, je ne serai pas longue là-dessus, ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais les données que je vais vous présenter, ce sont toutes des données qui sont produites sur la période 1er janvier 2021, 30 juin 2021. Les données seront sur le premier semestre 2021 seulement. Donc bon, assez parlé, assez présenté le SIAO en tant que tel, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais commencer par présenter les données sur les femmes en demande auprès du 115 et du SIAO. La façon dont j'ai prévu de procéder, c'est d'abord de présenter un petit peu une analyse sexuée, genrée de la demande qui nous parvient auprès du SIAO et du 115. Et puis ensuite de faire un zoom spécifique sur les personnes victimes de violences qui sont en majorité des femmes. Voilà, sans que ce soit une surprise, je pense, pour les personnes ici présentes. Donc sur les données sur les femmes en demande auprès du SIAO, ce qui frappe, premièrement, c'est une sous-représentation manifeste des femmes parmi les personnes en demande. Ici, j'ai mixé, en général, je vais présenter des statistiques différentes entre le 115 et le SIAO insertion, mais cette sous-représentation manifeste, elle est vraiment exactement la même, dans la même proportion sur les deux services. C'est-à-dire qu'il y a 35% de nos demandeurs qui sont des demandeuses, aussi bien auprès du 115 que de l'insertion. Alors que les femmes représentent 52% de la population de la Loire. Donc ici, on est face à une sous-représentation assez importante. Donc l'idée, une fois qu'on a dit ça, c'est de se demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les femmes sont moins précaires que les hommes? Et c'est pas l'analyse que l'on en tire. Ici, je vais pour apporter une piste d'explication, me baser sur une enquête ethnographique qui a été réalisée par la sociologue Marine Morin, sociologue stéphanoise, donc c'est pour ça que j'ai choisi de présenter cette étude particulièrement, qui a réalisé une enquête donc, sur l'invisibilisation des femmes sans-abri à Saint-Étienne et au Québec. Et donc en fait c'est ça, l'idée de dire c'est qu'aujourd'hui il y a une sous-représentation des femmes parmi nos demandeurs et nos demandeuses parce que les femmes sans-abri sont invisibilisées. Donc toute la thèse de Marine Morin, c'est de montrer, après son enquête ethnographique, que les femmes sans-abri... Alors oui, avant de commencer, je voulais aussi vous dire que je vais parler des femmes sans-abri au sens large. Le sans-abrisme, pour moi, ce n'est pas seulement les personnes qui vont dormir à la rue le soir, mais c'est bien les personnes qui sont dans des squats, les personnes qui sont hébergées chez des tiers, les personnes qui sont dans des centres d'hébergement d'urgence. Pour moi, ça fait vraiment partie de cette grande catégorie de personnes sans-abri et qui constituent nos publics. Donc l'étude de Marine Morin, elle a révélé que les femmes sans-abri mettaient en œuvre toute une palette de stratégies d'évitement pour faire en sorte qu'elles ne soient pas considérées comme sans-abri, pour se protéger. Par exemple, cette stratégie d'évitement, ça va être ne jamais dormir dehors la nuit, mais errer la nuit et se reposer la journée. Ça va être prêter une attention particulière à son apparence physique pour ne pas être considéré comme sans-abri dans les stéréotypes que l'on peut avoir sur les sans-abri. Ça va être masculiniser son apparence pour ne pas être perçu comme une femme et pour se protéger. Ce qu'elle met aussi en évidence, c'est que ces femmes-là vont mobiliser vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie pour être hébergées chez des proches, dans des hébergements temporaires. Et donc c'est l'ensemble de ces stratégies d'évitement-là qui vont conduire au fait qu'il y a une invisibilisation des femmes sous-abri. Et donc aujourd'hui, il y a une sous-représentation parmi nos publics des femmes. Voilà. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur cette question et ce sera intéressant de creuser, de voir avec vous en tant que professionnel ce que vous en pensez. Mais nous, au 115 et au SIAO, on est convaincus qu'il y a un non-recours important, en fait, parmi les femmes de nos dispositifs. Donc si je continue un petit peu plus loin sur l'analyse, une fois qu'on est sur les personnes en demande, on peut se demander quelles sont les personnes qui sont orientées. Et ce qui est assez frappant, c'est de se rendre compte que si les femmes représentent 35% des personnes en demande auprès du 115, donc là je vais faire un petit zoom sur le 115 particulièrement, l'hébergement d'urgence, les femmes représentent 43% des personnes qui sont orientées. Donc on va dire qu'il y a un différentiel, il y a un meilleur taux de prise en charge entre guillemets des femmes sur le 115. On peut se poser la question pourquoi, pareil, quand on a un chiffre comme ça qui nous paraît un petit peu bizarre ou en tout cas qui correspond pas à nos, à nos présupposés. L'idée, c'est pas de dire qu'on prend plus en charge les femmes par, je sais pas, par plaisir ou quoi au 115, mais il y a des pistes d'explication en fait très tangibles sur pourquoi il y a ce différentiel. La première piste d'explication, c'est la mise en sécurité immédiate des personnes victimes de violences. Puisque comme je l'ai dit, quand on est une personne victime de violence, on est mise en sécurité automatiquement. On est automatiquement pris en charge par le 115. Il n'y a pas d'histoire de non, il n'y a plus de place pour vous, ou non, vous ne remplissez pas tel critère. Et comme 92% des personnes victimes de violences sont des femmes, forcément ça fait augmenter de façon automatique le taux de prise en charge des femmes. La deuxième explication que je peux trouver parmi le fonctionnement du 115, c'est les critères de vulnérabilité. Donc, face à une situation de saturation des places d'hébergement d'urgence, au 115, il est parfois nécessaire de mettre en place des critères de vulnérabilité parce qu'on ne peut pas faire rentrer tout le monde. Les critères de vulnérabilité ont un petit peu évolué, mais ce qu'il est important de retenir ici, c'est que la majorité des critères de vulnérabilité concernent effectivement en majorité des femmes, puisque parmi ces critères, on a être enceinte de plus de 6 mois, il me semble, je parle sous couvert de mes collègues, mais du coup qu'il y a une réalité qui concerne les femmes. Et un autre des critères, c'est être un parent isolé avec plusieurs enfants. Et là, on se rend compte que cette réalité-là, c'est pas inscrite qu'il faut être une femme pour être un parent isolé avec plusieurs enfants, mais sauf qu'il y a 1% seulement des ménages dont le parent est isolé avec des enfants qui sont des hommes. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de ce différentiel. Par contre, voilà, donc là je me suis bien intéressée au 115, et sur le SIAO insertion, on ne retrouve pas ce différentiel. 35% des femmes en demande, 35% des femmes orientées, et c'est ce qui nous fait dire en fait que du coup ce différentiel-là, il est vraiment lié aux règles de fonctionnement du 115. Si on s'intéresse encore un petit peu plus précisément, si on zoome un petit peu plus précisément pour connaître le visage des femmes qui nous sollicitent, quel profil majoritaire elles ont, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais insister. Ce sont des femmes seules et ce sont des femmes jeunes. Des femmes seules, alors j'entends seules au sens de seules adultes du ménage. Ça peut être des femmes seules avec enfants ou seules sans enfants. Effectivement, donc là, sur le 115, vous voyez très bien là-haut, on arrive à 65% de femmes parmi toutes les femmes qui sont seules. 40% d'entre elles sont seules sans enfants et 25% sont seules avec enfants. Au niveau du SIAO insertion, c'est la même chose mais dans des proportions encore plus importantes puisqu'on est à 78, voilà, si je ne me trompe pas, % de femmes seules parmi toutes les femmes qui demandent. Voilà, et avec une représentation très importante, 49% de femmes seules sans enfants. Voilà sur cette réalité-là. L'autre réalité, donc comme je le disais, ce sont des femmes qui sont en général jeunes. Sur la partie urgence, 30% d'entre elles ont moins de 25 ans, et sur la partie insertion, c'est 35% d'entre elles qui ont moins de 25 ans. Alors que c'est là où la surreprésentation, elle est vraiment inquiétante, voire alarmante, les femmes de moins de 25 ans, ça représente 9% des femmes dans la population ligérienne. Donc cette surreprésentation des jeunes, on la retrouve chez les femmes ici, mais en fait c'est une réalité qu'on observe parmi tous nos publics. Les causes de cette surreprésentation, elles sont multiples. Nous, on en a identifié quelques-unes, mais l'idée, c'est bien à chaque fois que je vous présente des pistes d'explication et qu'on puisse dialoguer ensemble à partir de vos connaissances, de vos expériences, de vos vécus. Donc nous, pour cette cause de surreprésentation des jeunes parmi nos publics, on évoque l'absence de ressources qui est liée notamment au fait qu'on ne peut pas bénéficier du RSA quand à moins de 25 ans ou à de rares exceptions. Forcément, il y a une précarité particulière des jeunes. Mais on l'analyse aussi de façon liée au sorties sèches d'institutions pour mineurs, notamment aux sorties de l'aide sociale à l'enfance, mais dans une moindre mesure aussi aux structures du handicap pour mineurs. Donc voilà, j'ai terminé sur cette présentation de, en général, quelles sont les femmes qui nous sollicitent. Ce sont des premiers éléments d'analyse. Comme je l'ai dit, on a un service qui existe depuis peu de temps, et j'espère un jour pouvoir refaire une intervention avec plus d'éléments, plus d'analyses, plus de chiffres. Donc en deuxième partie, je souhaitais réaliser un petit zoom sur les personnes victimes de violences. Donc voilà, pour pourquoi je parle des personnes victimes de violences sur une journée femmes et précarité, tout simplement parce que 92% des victimes sont des femmes. Donc ça me semblait quand même très important de le mettre et de l'inscrire ici. Je réalise ce Zoom également parce qu'on a une convention, un dispositif particulier dans la Loire qui est très intéressant. C'est une convention donc, qui lie les services de l'État, le SIAO et différentes associations d'hébergement-logement, dont SOS Violence Conjugale ou la CARS, pour la mise en sécurité automatique des personnes victimes de violences. Comme je l'ai dit, on appelle le 115. Si on est victime de violences sans domicile ou ayant besoin de quitter le domicile, on est mis en sécurité automatiquement. Et là où ce circuit de mise en sécurité il est intéressant et efficace, c'est que l'accompagnement donc de SOS Violence Conjugale 42 commence très rapidement dans les jours qui suivent la mise en sécurité. Cet accompagnement, il permet aux femmes de sortir des violences, mais il permet aussi aux femmes une insertion, une réinsertion, enfin en tout cas voilà, de retrouver une vie plus ou moins digne. C'est un dispositif qui est efficace aussi puisqu'on observe un taux de sortie de ce dispositif vers le logement qui est très élevé. Et ça on peut l'analyser comme une efficacité de ce dispositif-là, mais aussi on peut l'analyser comme une particularité en fait des femmes victimes de violences qui sollicitent le 115. Une part d'entre elles vont avoir une vulnérabilité particulière liée aux situations de violence, mais ne vont pas forcément partager l'ensemble des précarités ou l'ensemble des vulnérabilités que peuvent avoir les publics qui sollicitent le SIAO. Voilà, il y a un mix de ces publics. Bien entendu, il y a des femmes qui sont accompagnées par SOS Violence Conjugale et à laquelle la problématique des violences vient s'ajouter à plein d'autres formes de précarité. Mais une part d'entre elles, elles sont dans une situation de précarité bien temporaire. Ce que je voulais préciser avant de parler un petit peu plus de qui sont les femmes prises en charge, c'était qu'aujourd'hui, cette mise en sécurité, elle se fait sur une vingtaine de places à l'échelle du département, 17 places à Saint-Étienne et 4 places à Rouen. C'est peu. Et donc, quand une personne nous sollicite et qu'il n'y a plus de place, on met les femmes directement en sécurité à l'hôtel. Voilà, c'était la particularité. Donc, qui sont les femmes qui sont prises en charge sur ce dispositif ? Donc, encore une fois, je me base sur des chiffres des 6 premiers mois de 2021. On a 90 ménages, soit 191 personnes qui ont été prises en charge via ce dispositif sur les 6 premiers mois de l'année. Donc, qui ont été mises à l'abri au titre des violences. Et là, donc, comme le disait en introduction la présidente de SOS Violence Conjugale, on retrouve vraiment une représentation très importante des enfants. Puisqu'en fait, parmi tous les ménages qui sont mis en sécurité dans le cadre de ce dispositif, 47%, donc quasiment la moitié, sont des femmes avec enfants. Donc la présence d'enfants, c'est vraiment une particularité du public spécifique. On va retrouver des enfants dans les ménages qui nous sollicitent au 115, mais pas dans ces proportions. Donc pour faire une comparaison, 35% des ménages qui sollicitent le 115 sont des ménages composés d'enfants, et c'est 17% des ménages qui sollicitent le SIAO insertion qui sont composés d'enfants. Donc vraiment, la présence des enfants, c'est une particularité au public des personnes victimes de violences. Et ça me paraît important ici de le souligner, puisque les enfants sont des victimes à part entière. Donc j'ai appris le terme grâce à Pauline Chassin, des victimes dites exposées. Et ça me semble important de dire que l'accompagnement, il ne devrait pas forcément, mais il concerne de fait les enfants, parce que les enfants sont là. Si on s'intéresse à d'autres données biographiques sur les ménages qui sont pris en charge, on peut s'intéresser aux nationalités des ménages qui sont pris en charge. Donc on se rend compte que 62% des ménages pris en charge sont de nationalité extra-européenne. Donc ici, on est bien sur la nationalité et pas le droit de séjour. C'est bien des personnes qui sont issues de pays extra-européens. Et parmi ces personnes qui sont issues de pays extra-européens, on a 21 ménages qui sont dans une situation qui ne disposent pas de titre de séjour au moment où elles sollicitent le 115 et au moment où l'accompagnement de SOS Violence Conjugale commence. Alors ce qu'il est quand même important de préciser, c'est que une régularisation est possible au titre des violences et que l'accompagnement de SOS Violence Conjugale 42 peut permettre d'accompagner les personnes vers cette régularisation. Mais c'est bien entendu tributaire du lancement de certains nombres de démarches et notamment le dépôt de plainte. Et donc là, sur ce point-là, ce que nous ont fait remonter les équipes d'SOS assez régulièrement, ça peut être la difficulté qu'elles ont à accompagner des femmes voilà, dans une situation administrative précaire quand elles ne souhaitent pas entamer de démarche, puisque là, les équipes d'SOS se retrouvent un petit peu désemparées et face à des personnes qui cumulent vraiment les précarités et les vulnérabilités sociales. À la précarité financière s'ajoute la vulnérabilité liée aux violences et s'ajoute la précarité administrative. Donc ça me semble important de parler de ça et de qu'est-ce que c'est la féminisation de la précarité. Pour moi, c'est aussi un cumul en fait des précarités et des vulnérabilités. Pour revenir sur notre problème de concentration de nos dispositifs à Saint-Étienne et Rouen, là où le problème est, on va dire, très alarmant, c'est justement sur cette question de mise en sécurité des personnes victimes de violences. Puisque, comme je l'ai dit, nos solutions d'hébergement, elles se concentrent sur la métropole stéphanoise et à Rouen. Et donc, si des femmes ou des personnes nous sollicitent et sont issues d'un autre territoire, notamment le territoire Loire-Forêt ou Montbrison, on n'a pas de solution à leur proposer près de leur domicile. Donc un certain nombre d'entre elles vont accepter, et puis un autre ne va pas accepter de façon tout à fait logique quand il y a des enfants notamment qui peuvent être scolarisés. C'est pas possible en fait d'être mise en sécurité trop loin de son lieu de vie. Et pour nous aujourd'hui, c'est une situation qui est vraiment déjà compliquée à vivre, et là peut-être que mes collègues écoutantes sociales pourront en parler, mais qui est une situation vraiment alarmante et on se dit qu'il faut trouver des solutions pour ces femmes qui nous sollicitent hors de ces territoires-là, puisque ce que j'ai oublié de mentionner, que j'avais écrit, c'est que ce dispositif de mise en sécurité, il permet de sauver des vies, hein, littéralement. Donc ne pas mettre en sécurité une femme, c'est prendre un risque quand même très important. Et je voulais terminer cette intervention sur donc, ce dispositif et sur l'augmentation en fait, des sollicitations que l'on a au 115 et des prises en charge. On assiste donc voilà à une augmentation des demandes. Donc là, comme je vous avais dit, j'ai essayé de faire des efforts pour arriver à trouver des données fiables et exploitables pour montrer cette évolution, cette augmentation. Mais voilà, j'ai difficilement pu remonter avant 2020 pour les demandes et avant 2019 pour les personnes orientées. Donc on voit bien qu'il y a une augmentation assez importante entre 2020 et 2021, avec une augmentation particulière sur le premier semestre 2020. Donc malheureusement, moi, je n'avais pas les données nécessaires pour dire est-ce que cette augmentation des demandes, elle est liée au confinement ou pas. Mais il y a quand même eu beaucoup d'observations qui ont été faites en ce sens par différents partenaires d'une augmentation de la nécessité de mise en sécurité des femmes pendant la période du confinement. Et donc ça se retrouve bien ici. Mais de façon générale, il y a une augmentation des demandes et il y a une augmentation des prises en charge, comme vous le voyez. En 2019, on était à 335 personnes orientées. En 2020, 364, et sur le seul premier semestre 2020, 191. Donc si on se dit que ça fait x2, on sera plutôt aux alentours de 380 à la fin de l'année. C'est à vérifier, on ne sait pas encore. Mais donc l'idée, c'est de dire aujourd'hui qu'il y a une hausse de la sollicitation de ce dispositif. Et comment on peut l'analyser ? On ne l'analyse pas comme une augmentation des violences sur notre territoire, mais on l'analyse comme un meilleur repérage des personnes concernées et des acteurs eux-mêmes de ce dispositif de mise en sécurité. Et quand je parle des acteurs, je parle notamment en fait des services tout simplement de police et de gendarmerie qui nous ont mieux repérés et qui, quand ils sont face à une personne victime de violence qui a besoin de quitter le domicile, nous sollicitent beaucoup plus facilement. Voilà, donc on peut se réjouir en fait de l'augmentation du recours à ce dispositif puisque ça permet de mettre en sécurité plus de femmes. Et j'ai terminé ici tout ce que je voulais vous dire, mais je vous laisse la parole si vous avez des questions ou si vous avez des observations qui vont dans le sens de ce que j'ai exposé ou au contraire, qui contredisent un petit peu. L'idée, c'est bien qu'on échange maintenant.
Merci beaucoup, Eva, pour la qualité de cette intervention. Voilà, je crois que c'est une première d'avoir autant de chiffres locaux sur à la fois la problématique de la précarité du 115 et comment on va croiser la question de la présence du public des femmes. J'imagine qu'il y a des questions.
Donc bonjour, moi je suis assistante sociale à SOS Violence Conjugale et je travaille en particulier sur la permanence d'écoute et d'accueil des victimes. Donc moi j'ai, par rapport aux observations de demande pendant le premier confinement en tout cas, nous qui sommes avec ma collègue les premiers interlocuteurs en fait des personnes qui appellent l'association, on a observé que pendant le premier confinement, on n'avait pas forcément beaucoup de demandes urgentes. On avait beaucoup de demandes d'informations, de comment quitter le domicile, parce que je pense que les dames pensaient que les dispositifs d'urgence étaient eux aussi confinés et que c'était peut-être compliqué de sortir, même pour rejoindre un lieu d'accueil, par exemple. Et elles demandaient surtout des informations sur qu'est-ce que je peux faire si je dois partir, est-ce que je peux partir maintenant. Mais on s'est aperçu qu'il y avait quand même, en tout cas pour notre part, après je ne sais pas si elles ont pu peut-être appeler le 115 sans passer par nous, mais en tout cas nous on n'a pas été extrêmement sollicités pendant cette période, en tout cas du premier confinement pour ce qui était des demandes de départ du domicile en urgence. Voilà.
Bah merci pour cette observation qui est assez intéressante. Et effectivement, là où mon exposé peut trouver ses limites, c'est que moi, je suis arrivée en décembre 2020. Donc moi, j'ai pris les chiffres, on va dire, du logiciel et il manque un petit peu ces éléments de vécu, en fait, de concrètement qu'est-ce qui se tâche derrière possiblement cette hausse des sollicitations. Donc voilà, merci d'avoir un retour terrain un petit peu plus... qui vient contredire aussi parfois les chiffres.
Quand vous parlez de victimes de violences, là, c'est pas seulement conjugal. Ces violences.
Ah non, alors oui, effectivement, j'ai pas précisé. C'est les personnes qui sont prises en charge dans le cadre du dispositif avec SOS violence conjugale. Donc, c'est des personnes victimes de violences conjugales. Oui, d'accord. Effectivement, merci de faire cette remarque. Parce qu'on peut être un peu désemparé. Nous, du coup, on a des personnes qui peuvent nous solliciter, victimes de violences intrafamiliales. Et on ne sait pas vraiment. Donc, après, voilà, il y a un échange avec SOS violence conjugale pour voir les prises en charge. Mais oui, là, la prise en charge, c'est bien violences conjugales.
La règle, en fait, le protocole qui a été établi, c'est que suite à l'appel et à l'orientation via le 115, la personne a 3 jours pour téléphoner à nos services, donc aux collègues qui sont ici, comme Céline, et un rendez-vous sera pris avec cette personne pour qu'on s'assure qu'elle soit bien au bon endroit, c'est-à-dire qu'on va vérifier, entre guillemets, le diagnostic. C'est aussi ce qui permet, sur ce type de dispositif, à la fois on a une inconditionnalité de l'accueil, parce qu'il y a une urgence du fait de la situation. Mais par contre, l'inconditionnalité, bien sûr, va être vérifiée par notre association. Et voilà, on a une grande vigilance pour ne pas être instrumentalisé, surtout sur des périodes comme aujourd'hui, où d'autres publics ne trouveront pas de réponse via le 115. Donc, j'en profite aussi pour vous dire qu'en tant, par exemple, que travailleurs sociaux, que collègues de la gendarmerie, c'est important de ne pas trop s'avancer parce que parfois on a des orientations sur des violences qui sont plutôt, qui relèvent plus trop de l'intrafamilial. Et ce type de violence, nous, on s'appelle bien SOS violence conjugale, donc on ne répondra pas à cette problématique.
Bonjour, je travaille à l'association d'aide aux victimes de Rouen. Et alors, peut-être que ce n'est pas pareil sur Saint-Théo-Rouen, mais j'ai l'impression que sur les établissements d'accueil d'urgence du Rouennais, ils sont quand même assez bien identifiés. Et du coup, il y a une mise sous protection puisque les personnes ne sont plus au domicile. Mais j'ai l'impression que c'est les mêmes un peu qui font auteur victime. Et c'est vrai que ça peut... Enfin voilà, je ne sais pas si ça se retrouve en fait de partout ou pas, mais ça peut être aussi un peu une difficulté parce qu'en fait, c'est les mêmes établissements qui peuvent accueillir les auteurs et les victimes.
Bah, sur ce point-là, je vais laisser, je pense, Pauline Chassin répondre puisqu'effectivement, il y a un dispositif d'hébergement et de... d'accompagnement des auteurs qui s'appelle Virage et c'est bien vous qui faites les deux.
Alors sur la question déjà de la répartition sur le département, on a la chance d'avoir une réponse qui est similaire sur tout le département. Donc soit on a une place en urgence qui est disponible dans un CHRS par exemple à la Carse, on a évoqué les 17 places. On en a également sur Rouen, on a évoqué les 4 places. Donc ça c'est une réponse victime. Premièrement, les places dédiées. Si aucune place dédiée n'est disponible, une place à l'hôtel. On a, j'en profite d'ailleurs pour vous informer, qu'on a une nouvelle collègue qui est arrivée au sein de l'association SOS Violence Conjugale, qui va assurer le petit suivi, je dis bien le petit parce qu'elle est sur un mi-temps, mais elle va assurer le suivi des personnes qui seront à l'hôtel et dans des appartements, puisqu'on ouvre aussi 3 appartements dédiés. C'est un petit peu compliqué, mais là, ça relève plus de l'insertion, les appartements. Donc aujourd'hui, on parle plutôt de l'urgence. Donc sur les places à l'hôtel, en appart-hôtel, ça aussi, je tiens à le préciser, parce qu'on a peut-être plus de personnes, mais on a des réponses qui sont aujourd'hui plus qualitatives. Ce qui explique aussi qu'on est sur un dispositif qui fonctionne, avec des victimes qui ne repartent pas au domicile conjugal, et avec lesquels on peut très rapidement engager un parcours de sortie qui va être efficace, soit vers une solution d'insertion, par exemple nos appartements, soit vers une solution plus pérenne, de, par exemple logement social ou logement privé. Donc là, on est sur les victimes. Sur la question des auteurs, on n'a pas de protocole aujourd'hui dans le département qui est finalisé, acté, signé, mais on a une certaine, certaine tolérance. Enfin voilà, on a bien conscience qu'un auteur qui n'est pas hébergé et qui va, par exemple, être du coup un peu obligé de trouver une solution peut être quelque part plus dangereux ou ne pas respecter, même quand la justice prononce une interdiction d'entrer en contact, le fait qu'il n'ait pas d'hébergement et de solution appropriée peut expliquer qu'il soit plus violent. Et on sait qu'au niveau national, la plupart des féminicides vont avoir lieu au moment de la séparation, au moment où la victime part. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de prendre en charge cet auteur sur la suite, vraiment la situation de séparation. Et puis, moi, ce que je répondrais, mais il n'y a pas d'analyse objective, c'est que ces auteurs, de toute façon, aujourd'hui, ils sont hébergés. Ce n'est pas parce que ce n'est pas marqué auteur et qu'on n'a pas de dispositif de la justice que ce ne sont pas des auteurs. Donc aujourd'hui, des auteurs de violence, nous, on prend en charge 621 victimes. On sait qu'on a 621 auteurs sur le département. Donc ils sont bien quelque part. Et c'est très certainement qu'on va les retrouver sur des dispositifs de précarité dans les associations avec lesquelles on travaille. Donc l'intérêt, c'est plutôt de se dire, bon, on a conscience maintenant qu'on sait parfois qu'ils ont eu une condamnation de la justice, on le sait, et du coup, nous, on propose un accompagnement avec Virage, qui est spécifique, qui permet d'avoir un entretien individuel, une inscription sur un stage collectif, 10 stages de responsabilisation, et un autre entretien individuel. Ça, c'est le parcours un peu classique qu'on propose pour des auteurs. Il faut savoir aujourd'hui que la collègue gère une augmentation de 200% d'activité depuis le début de l'année. Quand elle avait une centaine d'auteurs sur une année, aujourd'hui, elle était déjà à 200 sur 6 mois. Donc très clairement, au sein de notre association, on est un peu victime de notre succès sur le dispositif des auteurs. Ce ne sont pas des nouveaux auteurs. Voilà. Ce sont simplement des auteurs qui sont mieux orientés parce que le dispositif commence à être bien repéré par des associations, par des travailleurs sociaux, par les collègues de la police. Et on prend des auteurs sur décision de justice ou des auteurs qui se présentent de manière individuelle à notre association.
Est-ce que cette démarche d'observatoire, elle a été mise en place dans d'autres départements qui vous permettraient éventuellement de voir les spécificités ?
Comme je l'ai dit, l'observation de base, c'est une mission réglementaire des SIAO qui a lieu dans tous les départements. Après, tous les SIAO ne sont pas dotés de la même façon. Concrètement, il n'y a pas une personne qui s'occupe de ça dans tous les SIAO. Mais je suis en lien avec mes collègues du Rhône et de l'Isère. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments à vous présenter, mais l'idée, oui, c'est qu'on arrive à proposer des constats qui soient similaires. En tout cas, là, juste en tête, parce que je sais que j'en ai parlé avec la collègue de l'Isère très récemment, la surreprésentation des familles avec enfants parmi les personnes victimes de violences, c'est bien la même en Isère. Pareil, la sous-représentation des femmes qui sollicitent le 115, c'est bien la même en Isère, dans des proportions qui sont relativement similaires.
Oui, j'en profite aussi pour compléter, parce que je trouve que la question des enfants, aujourd'hui, elle devient vraiment centrale. Et quand on parle des places qui sont dédiées pour les personnes victimes, en fait, on oublie très souvent de le dire, mais les enfants sont compris. Donc quand on dit 17 places à la CARS, ça signifie 17 places pour les victimes et leurs enfants. Donc vous imaginez bien que vu le nombre de sollicitations au 115, on est du coup sur un public qui va être majoritairement hébergé sur une place à l'hôtel et qu'on va accompagner, nous, dans cette situation de transition très précaire pour une femme avec des enfants. Je ne vous parle pas des changements d'école, des changements de médecin. Voilà. Donc ce n'est pas anodin parce que la présence des enfants engendre quand même une activité beaucoup plus importante pour nous. On ne peut pas dire maintenant on n'accompagne que la victime et puis débrouillez-vous avec vos enfants. À chaque fois qu'on a, là on a en ce moment des victimes avec 6, 7 enfants. Donc les collègues assurent l'accompagnement des 6 ou 7 enfants. Et souvent ça apparaît peu. Donc je crois que derrière l'invisibilité des femmes, en fait, ça met aussi en lumière l'invisibilité des enfants qui sont dans cette situation de précarité. et qui sont aussi des personnes qui doivent être accompagnées dans ces problématiques.
Parmi toutes les femmes qui sont accompagnées d'enfants, donc par le public victime de violences, il y en a 20% qui ont 3 enfants ou plus. Donc en fait, quand on parle d'enfants, c'est qu'on parle aussi souvent de familles nombreuses et qui sont en relative augmentation, voilà, dans les prises en charge.